Bonjour chers auditeurs de Studio 45. D'abord, désolé pour ces semaines d'absence, bien indépendantes de notre volonté. Pour reprendre ces chroniques, nous allons essayer de développer au fil des semaines la riche période de notre histoire génoise, celle du Génois médiéval. Et pour ce premier épisode, regardons ce qui s'est passé pendant une certaine épopée de cette année 1429. Dans les nombreuses chroniques et interprétations lues, entendues ou vues sur l'épopée joannique, Gien, mis à part quelques journées épisodiques de 1929 à 2012, fait figure de parent pauvre en citations, manifestations, qui se limitent pour le Loiret à Orléans, qui est bien sûr légitime, ou à la bataille de Patay. Mais Gien, dans tout ça, et pourtant, notre ville, joua dans cette aventure un grand rôle qu'on peut qualifier de capital et qui mériterait à minima une manifestation mémorielle, même si, reconnaissons-le, au fil de l'histoire, Jeanne d'Arc y figure dans un nom de rue et dans notre église. C'est le 28 février 1429 que se présente à la porte du Lion d'Or, au bas de l'actuelle rue Le Jardinier, une petite troupe d'hommes armés. Ils se nomment soldat Bertrand de Pouligny, soldat Jean de Honnecourt, leurs serviteurs Julien et Jean de Honnecourt, ainsi qu'une paysanne habillée en homme. Notons qu'ils franchissent par cette porte la première ville royale et qu'après avoir, sur 150 lieues, traversé toute la province de Bourgogne acquise aux Anglais, ils sont dans la première ville française du parcours. Une fois entrés dans la ville, la jeune paysanne défait ses cheveux, reprend des habits féminins et révèle aux Génois la mission qui lui a été confiée, bouter les Anglois hors de France et faire couronner à Reims le dauphin Charles comme roi de France. Bien sûr, le premier acte de Jeanne fut de se diriger avec sa troupe vers la collégiale pour rendre grâce à Dieu. Pendant ce temps-là, en un temps record pour l'époque, dans la journée, la nouvelle fut portée aux Orléanais assiégés et Dunois, le bâtard d'Orléans, capitaine des troupes du Dauphin, envoie immédiatement deux seigneurs à Chinon pour s'enquérir de ce qu'ils sauraient sur cette jeune paysanne bourguignonne qui se dit envoyée par Dieu pour lever le siège d'Orléans et faire sacrer le roi. Jeanne s'installe au château, une hypothèse non vérifiée, ni même sans doute vérifiable, à ce jour, évoque l'idée qu'elle dormit à l'hôtel du Cheval Blanc, au bout de la rue Vieille Boucherie. Le 1er mars, Jeanne quitte Gien, passe en Berry par le pont Saint-Louis, notre cher vieux pont, et rejoint Chinon par Saint-Gondon, Senlis, Vouzon, Saint-Viâtre, Loches, et elle se présente au dauphin le 8 mars. Le siège d'Orléans est effectif depuis octobre 1428. Le véritable siège commence les 23 et 24 octobre 1428, après la prise par les Anglais du boulevard et du fort des Tourelles, commandant l'accès sud du pont et leur installation dans les ruines du couvent des Capucins. C'était sans compter sur Jeanne d'Arc qui renversera le cours de la guerre. Le vendredi 29 avril 1429, à Orléans, on apprend que des vivres et secours envoyés par le dauphin et menés par la Pucelle sont sur le point d'arriver dans la ville par la Sologne. On s'organise et on s'arme pour parer à une éventuelle attaque anglaise du convoi. Pour laisser le libre accès, les Orléanais font diversion et éloignent une partie des Anglais en allant guerroyer devant Saint-Loup. Dans le même temps, la caravane tant attendue entre dans Orléans. Jeanne est restée à Chessy, jusqu'où elle a été conduite par le maréchal de Ré et Ambroise de Loré pour passer la nuit. Le bâtard d'Orléans, accompagné d'hommes d'armes, part à la rencontre de Jeanne et il décide que la Pucelle ne fera son entrée dans la ville qu'à la tombée de la nuit pour des raisons de sécurité. Mais le peuple est bien présent à son arrivée et l'accueille avec liesse. Jeanne, armée de toutes pièces, est montée sur un cheval blanc, précédé de son étendard blanc lui aussi, orné de deux anges tenant chacun une fleur de lys. À ses côtés se tient le bâtard d'Orléans, quelques nobles et seigneurs, écuyers, capitaines et bourgeois. Le samedi 30 avril, un groupe d'hommes, menés par Lahire et Florent Dillier, font une sortie et tentent d'incendier la Bastille de la place Saint-Pour. Leur opération sera un échec. Le dimanche 1er mai, le bâtard d'Orléans part pour Blois afin de trouver des renforts. La Pucelle l'escorte avec Lahire. Dès son retour, elle est encore accueillie par la population en héroïne. La nuit venue, Jeanne tente une nouvelle fois d'exhorter les chefs anglais de lâcher prise, mais elle se fait insulter. Le lundi 2 mai, Jeanne fait une sortie pour espionner les fortifications ennemies. Les Anglais sont impressionnés par les clameurs que déclenchent les déplacements de la Pucelle. Ensuite, elle se rendra à la cathédrale Sainte-Croix pour les vêpres, c'est-à-dire l'office du soir. Le mercredi 4 mai, un convoi et des renforts, environ 1500 hommes, en provenance de Blois, arrivent en ville. Jeanne part à la rencontre des renforts, mais fatiguée par cette longue chevauchée, elle prend quelques instants pour se reposer. Se réveillant en sursaut, elle a un mauvais pressentiment et demande à son écuyer de l'armer rapidement. Elle se presse de rejoindre la porte Bourgogne, où rêve une grande agitation. Galvanisée par la présence de Jeanne et l'arrivée des renforts, des hommes d'armes souhaitaient en découdre en attaquant la Bastille Saint-Loup. Jeanne prend la tête des troupes, environ 1500 hommes, organise l'attaque et remporte le combat. Talbot, chef anglais, en poste dans la Bastille Saint-Pour, tente une sortie pour venir en aide à ses compatriotes. Mais le clocher du beffroi donne l'alarme. 600 hommes, menés par le maréchal de Saint-Sever, le seigneur de Graville et le baron de Coulances, font reculer Talbot et ses troupes. À peine le combat terminé, la Bastille est détruite. Les Anglais déplorent alors 120 morts. Jeanne d'Arc est très marquée par la vue de ces cadavres et aussitôt se fait confesser par son aumônier. Elle demandera à tous les hommes de faire de même. Le jeudi 5 mai, jour de l'Ascension, Jeanne tient un grand conseil réunissant tous les grands chefs présents à Orléans. Il est décidé que le fort des Tourelles sera attaqué ou assiégé dès le lendemain avec tous les hommes et tous les engins de guerre disponibles. Le vendredi 6 mai, au petit matin, les Français passent la Loire en vue de délivrer Saint-Jean-le-Blanc en premier lieu. Peu défendu, la place sera rapidement conquise et quelques fuyards iront se réfugier dans la Bastille des Augustins. À ce moment, une rumeur parcourt les troupes. Les Anglais seraient sur le point de traverser la Loire par l'île Charlemagne. Les Français, désemparés, pensent à se replier. Mais, trop tard, les Anglais sortent en masse du fort des Tourelles et des Augustins. Le combat est irrémédiable. C'est Jeanne qui fut l'animatrice de la première attaque, en ordonnant de s'attaquer au parapet. La Bastille est bien défendue. Alors, Jean d'Aulon appelle Maître Jean et lui demande de prendre les Anglais pour cible au sommet du mur. L'habile couleuvrinier fera d'une pierre deux coups en ouvrant une biège dans le rempart. Le site est rapidement pris et la plupart des défenseurs sont tués ou faits prisonniers. On fait brûler la Bastille. Les Anglais abandonnent d'eux-mêmes la Bastille de Saint-Privé en y mettant le feu. Ils courent se réfugier à Saint-Laurent. La Pucelle, blessée au pied au cours de l'assaut par une chausse-trappe, rejoint la maison de chaque boucher pour s'y reposer. Cependant, les généraux se réunissent en secret et décident que rien ne sera plus tenté, compte tenu du manque d'effectifs. Jeanne, informée de la tenue de cette réunion, convoque les bourgeois et leur fait part de la décision des généraux. Jeanne parvient à les convaincre, soldats et miliciens décident de la suivre le lendemain. Le samedi 7 mai, dès son réveil, Jeanne assiste à la messe dite par son aumônier. Le contingent passe la Loire et se rassemble dans la Bastille des Augustins. C'est à partir de ce point que reprend l'offensive. Avant même le lever du soleil, le dimanche 8 mai, le reste de l'armée anglaise quitte ses bastilles, se met en bataille près de Saint-Laurent. Après avoir réussi à lever le siège d'Orléans et avoir repris les places fortes tenues par l'ennemi, Jeanne vit le connétable de Richemont, comte de Gien en disgrâce, se présenter devant Beaugency avec 400 lances et 800 archers. Elle l'admet sans réserve dans l'armée du Dauphin, lequel Dauphin se trouve au château de Sully-sur-Loire. Jeanne le rejoint et lui demande de la suivre pour lui permettre une entrée triomphale à Orléans avant de rejoindre Reims pour s'y faire sacré roi. Mais Charles, qui n'est pas des plus dynamiques, refuse et c'est seul que Jeanne sera reçue dans une ville d'Orléans en grande liesse. La ferme détermination de Jeanne d'Arc aboutit à la décision d'un grand rendez-vous des troupes à Gien où le dauphin se rendra le lendemain. Martial d'Auvergne écrit dans les vigiles du roi Charles VII « Au mois de juin, dit celui-en, le roi fit à tous assigner qu'il se rendisse à Gien pour aller à Reims couronné. S'y eut tantôt grande assemblée des barons et nobles de France qui tous vinrent en cette armée de cœur en tête en toute diligence. » C'est du vieux François, c'est pour ça que c'est pas forcément la grammaire actuelle. Donc, c'est le 29 juin 1429, jour de la Saint-Jean-Baptiste, que Jeanne, attendue par le dauphin Charles, fait sa deuxième entrée dans notre ville de Gien. La Pucelle et l'armée victorieuse arrivent par le vieux chemin d'Orléans, actuel chemin du Val et rue des Fourches. Elle porte l'habit de ses victoires, l'armure forgée et polie à Tours, le blanc harnais et l'épée de fierbois. Elle est précédée de son écuyer Jean d'Aulon, qui porte fièrement l'étendard béni, sur lequel se détache la locution Jésus-Maria. Dans le même temps, probablement au bois du camp, s'installe une armée de 12 000 hommes. Elle attend les ordres pour se mettre en marche. Bien qu'en disgrâce, de Richemont, propriétaire du château, le met à la disposition de Jeanne et du dauphin. La discussion s'éternise. Faut-il d'abord attaquer Cône ? Faut-il nettoyer le Berry avant d'aller à Reims ? Etc, etc. Jeanne conseille vivement au dauphin de ne pas écouter ses ultimes palabres et de courir à Reims pour s'y faire sacrer. Il y a, chacun sans doute, une ambiance inhabituelle et royale autour du château. Comme à chaque fois qu'elle entre dans une cité, Jeanne fait chanter aux vêpres l'antienne à Notre-Dame. Il est probable qu'elle fut chantée à la collégiale. Imaginons l'ambiance chez les Giennois qui vivent une animation extraordinaire dans notre ville où ont couché le dauphin Charles, Jeanne d'Arc, Jean II d'Alençon surnommé Jean le Beau, Lahir, Dunois, Xaintrailles et beaucoup d'autres dont ils peuvent admirer les chevaux et les équipages. Le 25 juin, au château de Gien, Jeanne rédige sa lettre aux habitants de Tournai pour les inviter à venir à Reims assister au sacre. Mais le dauphin, comme toujours, hésite et devant cette indécision, Jeanne, accompagnée d'une forte suite, prend la route de Reims par Montargis-Auxerre. Or, les gens doutent pas. Il faut bien ajouter une touche d'humour à nos récits. Comme dans chaque déplacement des armées, une petite troupe de filles suit les déplacements à d'autres fins que la défense de la patrie. Jeanne ne peut, au nom de Dieu et de sa foi, tolérer ce genre d'activité. Elle aurait, sous une pluie de mots rageurs, cassé l'épée de fierbois sur le dos d'une de ses créatures. Bon, ceci étant dit, elle enregistre avec joie la décision du dauphin Charles de se rendre à Reims et de savoir ce dernier donner enfin l'ordre du rassemblement de l'armée et sa mise en route immédiate. La marche sur Reims est donc engagée et c'est le dimanche 17 juillet que le dauphin Charles est sacré roi sous le nom de Charles VII. Ensuite vont se dérouler les événements que l'histoire retiendra et qui sont hautement marqués par la défaite de Paris. Et à nouveau, Agen se présentera le 21 septembre à la suite du roi, Jeanne et une armée défaite. Le roi Charles VII prendra quelques repos au château et bien le temps des décisions compliquées. Jean II d'Alençon veut organiser une expédition vers la Normandie, mais à la condition que Jeanne l'y accompagne. Le roi y est favorable, mais la Trémoigne intervient pour contester cette orientation. Et comme très souvent, peut-être trop souvent, le roi cède. Alençon et Jeanne se séparent à Gien, presque en état de disgrâce. Estimant que reprendre Paris est impossible, Charles VII décide de se replier sur Bourges et c'est le 24 septembre que Jeanne, la libératrice d'Orléans, passe encore une fois notre majestueux fleuve de Loire. Sans doute, sur ce vieux pont, se remémore-t-elle la prestigieuse aventure vécue depuis son premier passage au même endroit il y a seulement 6 mois. Pour conclure, de se souvenir d'un épisode trop ignoré de notre cité, citons les quelques manifestations johanniques qui ont eu lieu à Gien. D'abord 1929. C'est le 30 juin 1929, 500 ans après les passages qu'ont eu lieu à Gien la plus grande manifestation de Jeanne, avec banquet, défilé, discours, apposition de plaques, la plupart disparues, lors des événements de juin 1940, présence des délégations, notamment importante délégation de la ville de Tournai. Ensuite, le nom de Sainte-Jeanne d'Arc, canonisé en 1920, fut donné à l'église de Gien rebâtie en 1954. Le 13 mai 1972, à l'initiative de la Chague, une manifestation importante, partie de la chapelle de Montbricon, se rend à l'église où André Barbier, président de la Société historique, prononcera l'éloge en rappelant le rôle de Gien dans cette épopée, conclut par ces mots. « Notre but est de garder à notre ville toute la place qui lui revient parmi les cités johanniques qui ont la mission, pour ne pas dire le double devoir, de conserver jalousement le souvenir de Jeanne d'Arc et d'honorer sa mémoire comme il se doit. » Parole, hélas bien vite oubliée, tant dans la ville que de ses ressources historiques. Et puis, les années ont passé, une seule manifestation a été organisée en 2013 sous la municipalité urtigère pour marquer le premier passage du pont. Souhaitons simplement qu'à l'approche de ses 600 ans, Gien se souvienne enfin du rôle capital qu'elle joua dans l'épopée et dans la libération d'Orléans.